du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Soyez les bienvenus, il est midi, bienvenue, présence midi en direct jusqu'à 13h, nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner dans cette émission. Dans un instant, on va s'intéresser à l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec Violaine Ricourt-Dumas, la responsable communication pour ce diocèse, et c'est dans un instant. Et puis l'invité d'Anne-Rose Jankovic à midi, Anne-Rose va nous amener à la découverte des biomatériaux. C'est une nouvelle manière de concevoir et fabriquer les matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Son invité, c'est Philippe Evan. Il est ingénieur de recherche pour le laboratoire de chimie agro-industrielle. À écouter aux alentours de 12h15. René Cusac, c'est l'auteur qu'a sélectionné cette semaine Anne Lasserre dans Le regard des écrivains sur les Pyrénées. Il a notamment écrit L'Adour et ses gaves. Vous le savez, le gave, ce sont ces cours d'eau torrentiels qui sont dans les Pyrénées. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Émission qui débute avec l'essentiel de l'actualité régionale avec Laetitia à la une, présenté par Mathis Saint-Tenac.
Le sénateur du Lot alerte le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, sur des financements scolaires toujours bloqués dans le cadre du programme Notre école, faisons-la ensemble. La circulation des trains entre Toulouse et Montauban sera interrompue à deux reprises en novembre, les week-ends du 8 et du 22, pour des travaux sur la future ligne à grande vitesse. Les tanneries Pêche d'Eau à Millau, centenaire et employant plus d'une trentaine de personnes, sont placées en liquidation judiciaire depuis début novembre. La foire du livre de Brive accueille du 7 au 9 novembre 500 auteurs et une centaine de rencontres littéraires sous la présidence de Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt. Plus de 150 kilos de poissons ont été relâchés dans les cours d'eau de Moissac cette semaine pour renforcer la biodiversité et soutenir la pêche locale. À Villeneuve-Tolosane, 3500 poules pondeuses destinées à l'abattoir seront adoptables samedi 8 novembre contre un don de seulement 4 euros par animal.
Merci Mathis Saint-Tenac, Mathis qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve à midi et demi pour développer ses titres dans le journal. Dans un instant, direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron avec Violaine Ricourt-Dumas.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
L'agenda des diocèses nous amène maintenant à Bayonne avec Violaine Ricourt-Dumas, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Violaine.
Bonjour Ville, bonjour à tous.
On va détailler l'agenda béarnais de votre diocèse. Cet agenda nous amène à Naï, à la communauté des Béatitudes, qui met la parole en pratique dans des temps d'ateliers de modélage.
Tout à fait. Donc la communauté des Béatitudes qui propose régulièrement ce genre d'atelier qu'elle appelle Argile et Parole. Et là, bah, comme il y a un week-end prolongé pour ceux qui peuvent faire le pont, elle vous propose cela sur plusieurs jours à partir de demain soir et jusqu'à mardi 11 novembre. Vous pouvez passer donc ces quelques jours de repos en modelant des œuvres. Voilà, vous ferez un peu ce que vous voulez, c'est en modelant l'argile. Et puis bien sûr, en même temps, on écoute la parole de Dieu. Ils ont l'habitude de proposer ce genre de session pour réfléchir et prier ensemble, donc avec la parole de Dieu, tout en modelant de l'argile. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, on peut encore s'inscrire en allant sur le site de la communauté des Béatitudes de Naï, ou bien je vous donne un contact, accueilbeatitudenaï@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur le site du diocèse à la date du 7 novembre pour avoir plus d'informations sur cette session.
L'Église, parlons-en, c'est le thème d'une conférence qui sera donnée à Pau ce vendredi 7.
Cette conférence est donnée dans le cadre du cycle de foi et culture de cette année. Donc cette année, c'est sur l'Église, faire corps, c'est le thème de toute l'année, puisque chaque année, le service foi et culture, en partenariat avec les paroisses du nord de Pau, nous propose un cycle de conférences. C'est toujours passionnant, donc des conférences qui suivent un thème. Donc là, c'est sur faire corps. Et demain soir, la conférence sera plus précisément sur l'Église. L'Église, parlons-en, avec la théologie Marie-Christine Bernard. Ça se passe à l'église Saint-Paul de Pau, 262 boulevard de la Paix. C'est à 20h, donc de 20h à 22h. Et puis à noter que si on ne peut pas venir sur place, on peut réécouter la conférence qui est enregistrée en vidéo sur le site de Foi et Culture, Foi et Culture 64. Mais c'est toujours mieux de venir, bien sûr, en réel pour pouvoir poser ses questions et écouter donc cette conférence de Marie-Christine Bernard demain soir sur l'église, parlons-en, à l'église Saint-Paul de Pau.
On part maintenant au jeudi 13 novembre avec les saisons de la chapelle d'adoration perpétuelle à Pau.
Tout à fait, donc ça fait déjà 16 ans, en fait, avec l'arrivée de notre évêque, Monseigneur Hayet, qui, dès son arrivée, a ouvert deux chapelles d'adoration perpétuelle, une à Pau, une à Bayonne. Celle de Pau se trouve juste à côté de l'église Sainte-Thérèse, enfin, elle fait partie de l'église Sainte-Thérèse, cette petite chapelle, quand on rentre dans l'église, elle est juste à droite. Et 24 heures sur 24, il y a des adorateurs qui s'inscrivent et qui viennent prier, adorer pendant une heure ou deux, toute la nuit, toute la journée. L'idée de prier pour les vocations, puisque c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à notre évêque, adoration, donc qui est aussi proposée de manière communautaire tous les jeudis. Donc elle est vraiment très active et c'est l'occasion de fêter cet anniversaire. Donc ce sera jeudi prochain, 13 novembre. Il y aura au programme, donc à partir de 18h, l'adoration communautaire. Ensuite, à 19h, messe d'action de grâce présidée par notre évêque. Également la bénédiction des responsables et bénévoles qui s'activent pour faire vivre cette chapelle d'adoration perpétuelle. Et puis à 20h, un petit apéritif buffet partagé. Donc pour fêter les 16 ans de cette chapelle d'adoration perpétuelle de Pau, donc à l'église Sainte-Thérèse, avenue Trespoil à Pau.
On termine cet agenda avec une pièce de théâtre qui s'intitule Noé, pièce de théâtre de Fabrice Hadjadj. Elle sera jouée jeudi 13 novembre, jeudi prochain.
Tout à fait. Donc cette pièce de théâtre qui a été écrite par le philosophe théologien Fabrice Hadjadj sur Noé, c'est un conte apparemment avec beaucoup de suspense qui est joué par deux comédiennes. Donc ce sera jeudi prochain à 20h30. Ce sont les associations familiales catholiques de Pau qui nous proposent de venir voir cette pièce de théâtre. À noter qu'elle sera également jouée à Bayonne quelques jours après. Mais donc pour les Béarnais, écoutez, c'est l'occasion de venir la voir, cette pièce de théâtre Noé, jeudi prochain. Ça se passe à l'auditorium de l'Immaculée Conception à Pau. Donc l'Immaculée Conception, c'est boulevard Édouard Herriot, donc où il y a un bel auditorium où on pourra voir cette pièce de théâtre, donc Noé, pièce de Fabrice Hadjadj.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar-Oloron. Diocèse64.org, c'est le site internet de votre diocèse où on retrouve toute l'actualité et l'agenda également plus complet. Je vous remercie, Violaine Ricourt-Dumas. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à Bayonne et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel agenda. Au revoir, Violaine Ricourt-Dumas.
Merci, bonne semaine à vous et à bientôt.
Présence. Et la suite de Présence Midi dans un instant, c'est avec l'invité d'Anne-Rose Jankovi qui va nous amener à la découverte des biomatériaux. C'est une nouvelle manière de concevoir et fabriquer plus respectueux de l'environnement. Son invité, c'est Philippe Evan. Il est ingénieur de recherche pour le laboratoire de chimie agro-industrielle.
J'ai le vertige. Toi tu sonnes vrai. Je préfère t'entendre au pas assez. Tu feras la différence. Photo fige, un peu de flou, un peu de nous. Les tornades nous rappellent. On tient debout, et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère t'entendre au pas assez. Tu feras.
Dans un quart d'heure, le journal régional. Pour le moment, on va découvrir ou redécouvrir les biomatériaux avec l'invité d'Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence à Belmont-sur-Anse, 93.1.
Bonjour Philippe Evon.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche pour le laboratoire de chimie agro-industrielle. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de matériaux biosourcés. Voilà un vaste programme. On va expliquer beaucoup de mots, mais on va commencer par le début. On va essayer de comprendre d'abord quel est vraiment votre métier. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous travaillez et quelle mission vous avez quand on dit ingénieur de recherche dans le laboratoire de chimie agro-industrielle? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là et ce poste-là?
Alors, écoutez, en quelques mots, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, le laboratoire de chimie agro-industrielle, c'est un laboratoire académique. On est rattaché à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et on est en fait plus précisément une unité mixte de recherche entre cet institut et INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et donc ce laboratoire qui existe depuis 50 ans, son objet, c'est de développer des bioproduits, c'est-à-dire des produits issus de coproduits agricoles ou de coproduits issus d'une première transformation agro-industrielle, pour en faire notamment des matériaux. Et c'est précisément dans ce domaine des matériaux biosourcés que moi je travaille. L'objectif de ces matériaux étant de remplacer à terme des matériaux qui sont plutôt aujourd'hui majoritairement issus de ressources fossiles, mmh. et qui donc utilisent des ressources qui ne sont pas renouvelables pour être fabriquées.
Donc vous travaillez en fait selon les demandes des industriels qui veulent améliorer leur performance sur un point ou changer de matériaux parce que eux-mêmes sont boostés par les utilisateurs, les consommateurs en fait.
Alors il y a effectivement une évolution du cadre réglementaire qui contraint aujourd'hui les fabricants de matériaux à aller faire à partir de matières de plus en plus renouvelables. On a aussi évidemment une forte demande de l'utilisateur, donc du grand public lui-même, qui souhaite davantage de renouvelabilité dans les produits et donc notamment dans les matériaux qu'ils utilisent.
Donc ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire des produits qui durent plus longtemps, qui polluent moins et qui peuvent être changés plus facilement,
c'est ça? Ça veut surtout dire des produits qui ne sont pas issus du pétrole et donc d'une ressource non renouvelable dont on sait tous aujourd'hui qu'elle contribue fortement au réchauffement climatique. Les matériaux qu'on fabrique ne sont pas forcément plus durables. Certains d'entre eux peuvent l'être, mais la majorité ne le sont pas quand même. L'objet premier, c'est surtout de ne plus être dépendant d'une ressource non renouvelable comme le pétrole, qui évidemment s'épuise au fur et à mesure qu'on l'exploite.
Est-ce qu'on peut, dans tous les cas de figure, remplacer le pétrole par des matériaux biosourcés? Enfin, c'est efficace pour tout?
Pour tout type d'utilisation, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Il faut avoir à l'esprit que la plasturgie fossile, donc les plastiques issus du pétrole, est un domaine maintenant a un petit peu plus de 75 ans d'existence. Mmh. Et donc on a aujourd'hui sur le marché des plastiques issus du pétrole qui ont des performances mécaniques très élevées. Ouais. Donc nous, notre objectif, il est évidemment pas de se substituer à la totalité des usages de ces matériaux issus de matériaux fossiles. Néanmoins, vous avez des tas d'utilisations, vous avez des tas d'usages où le polymère issu du pétrole n'est pas nécessairement utile. On peut parler notamment des matériaux de construction, où vous avez effectivement possibilité de remplacer des colles de synthèse issues du pétrole par des liants naturels. Ça peut être des amidons, ça peut être des protéines, des lignines.
Donc tout ça, c'est des choses que vous testez, que vous expérimentez ici à Tarbes.
Alors exactement. Donc nous en fait, notre rôle premier, c'est d'acquérir de la connaissance. Donc là, c'est vraiment plutôt le volet académique des recherches qu'on va développer. Et d'ailleurs, ces recherches, elles vont majoritairement se dérouler sur le site toulousain du laboratoire de chimie agro-industrielle. Mais néanmoins, dans la mesure où les résultats de nos recherches, ce sont des pièces d'usage, assez rapidement, on a été sollicité par des industriels. Mmh. Alors, ces industriels, ça peut être des fabricants de matériaux qui souhaitent remplacer des matériaux issus du pétrole par des matériaux biosourcés, ou ça peut aussi être, vous voyez, par exemple, des coopératives agricoles qui disposent d'un coproduit et qui, ce coproduit, souhaite le valoriser autrement qu'en l'utilisant uniquement pour un apport de matière organique au sol. Mmh. Et donc, assez rapidement, on a été confronté par cette problématique de la montée en échelle. Fabriquer un matériau à l'échelle du laboratoire et donc n'en fabriquer quelques spécimens, c'est évidemment le début de notre travail. Néanmoins, dès qu'un industriel nous sollicite, il faut qu'on soit en mesure de lui montrer que de quelques échantillons fabriqués, on peut aussi fabriquer ce même matériau à des cadences beaucoup plus élevées qui sont celles de l'industrie.
Et donc là, ça veut dire d'autres partenaires, d'autres collaborateurs, ça veut dire qu'après vous, il y a une étape supplémentaire qu'il faut anticiper, quoi.
Alors, ça veut dire surtout que assez rapidement, il a fallu qu'on se pose la question d'acquérir des machines de plus grande capacité. Mmh. Et en fait, c'est de ce constat-là qu'est né le projet Agromat au milieu des années 2000. Donc, à Agromat, cette halle, elle est située sur le site de l'ENI de Tarbes, même si on n'a effectivement pas de lien direct avec l'ENI, ni même avec l'UTOP, fraîchement créé.
En tous les cas, c'est sur le site. C'est dans le...
Donc, on est sur le site et donc l'objectif d'Agromat, ça a été justement d'acquérir des outils de plus grande taille, nous permettant de prouver que notre procédé développé à l'échelle du laboratoire, il est toujours robuste, efficace, productif, sur des machines qui sont capables d'avoir des capacités égales à celles que les industriels utilisent aujourd'hui.
Alors là, sur le site Agromat, pour qu'on comprenne bien, vous êtes combien à travailler et quel métier travaille dans cette halle Agromat ? Vous êtes ingénieur, avec vous, qui travaille ?
Alors, écoutez, actuellement, on est une petite dizaine de personnels. Au total, actuellement, on est 9. Donc, on est deux personnels permanents qui assureront le fonctionnement de la halle et qui, évidemment, allons chercher les contrats de collaboration de recherche avec les industriels. Et puis après, en fonction des contrats qu'on obtient, on va être amené à recruter des personnes pour des durées plus ou moins longues qui peuvent aller jusqu'à 3 ans lorsqu'on parle d'une thèse de doctorat. Donc, on a quand même assez régulièrement des jeunes étudiants qu'on accueille en thèse et qu'on forme à leur futur métier de docteur pendant les 3 années du contrat sur lequel elles sont impliquées. Et nous, les gens qu'on recrute, ça va plutôt être des gens qui ont un profil master recherche ou ingénieur et qui ont des spécialisations dans le domaine de la chimie du végétal ou de la science des matériaux. Alors, idéalement, les deux, c'est mieux, même si, évidemment, on n'a pas toujours affaire à des jeunes gens qui ont ces doubles compétences. On essaie quand même toujours de recruter des gens qui ont au moins l'une de ces deux compétences. Et puis après, on les forme au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et assez rapidement, d'ailleurs, les étudiants eux-mêmes ou les jeunes salariés eux-mêmes deviennent autant spécialistes du sujet qu'on peut l'être soi-même.
Alors après, les biomatériaux qui sont mis en circulation pour remplacer le pétrole ou d'autres produits, ils sont expérimentés, ils sont testés, vous avez des retours là-dessus ? Enfin, j'imagine qu'il y a un ajustement permanent dans la manière de fabriquer, de concevoir en fait ces matériaux qui vont quand même révolutionner, notamment, vous parliez tout à l'heure des constructions, mais rien que dans ce domaine-là, on peut se dire que ça va révolutionner toute une chaîne de métiers en fait.
Alors, en fait, nous, on a tout ce qu'il faut, évidemment, pour optimiser les conditions de mise en forme, mais aussi tester les matériaux en termes d'usage, en termes de propriétés mécaniques, en termes de tenue au vieillissement, en termes de tenue à l'eau, puisque c'est souvent aussi pour les matériaux biosourcés un petit peu leur défaut, qui est une sensibilité à l'eau plutôt exacerbée par rapport aux matériaux issus du pétrole. Et puis après, évidemment, quand on se destine à remplacer un objet par un matériau biosourcé, on va d'abord regarder ce que sont les propriétés du matériau que notre client souhaite remplacer. Et on va essayer, avec nos propres matériaux issus du végétal, d'atteindre les propriétés mécaniques de durabilité et de tenue à l'eau que le matériau d'origine peut avoir. Après, dans le domaine de la construction, c'est assez réglementé. Donc, quand on a effectivement un nouveau matériau qu'on souhaite positionner sur le marché de la construction, vous avez un cadre relativement contraint qui doit être respecté. On doit notamment respecter la garantie décennale. Donc, s'assurer que notre matériau jouera le même usage pendant au moins les 10 premières années de la vie de ce matériau dans la maison. Donc, ça impose effectivement un certain nombre de contraintes et ça peut rajouter du temps jusqu'à ce que le matériau puisse lui-même être utilisé dans la maison.
Pour que vous ayez du recul suffisant.
Voilà. Néanmoins, vous avez quand même des tas d'usages, notamment les usages uniques ou très peu durables.
Par exemple ?
Alors, on va parler, vous voyez, par exemple, des éco-cups. Les éco-cups, elles ont une vocation à ne pas forcément être utilisées très longtemps. On peut aussi parler des couverts de pique-nique jetables. On peut aussi parler des pots de repiquage pour plantes. Oui. On a tous beaucoup de pots de repiquage pour plantes dans nos maisons ou dans nos jardins. On a été amené, il y a quelques années de ça, à développer des pots de repiquage, non pas à partir de polymères issus du pétrole, mais à partir de protéines végétales, si bien que le pot jouait non seulement un rôle de contenant, mais aussi on pouvait mettre le pot en terre avec la plante et faire en sorte que ce pot se dégrade une fois qu'il était mis en terre, ce qui permettait du même coup de nourrir la plante au début de sa croissance. Donc voilà typiquement le genre d'exemple d'usage unique ou de courte durée pour lesquels les matériaux biosourcés ont tout leur sens.
On marque une pause si vous voulez bien, Philippe Evon, et puis on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette interview donc sur les matériaux biosourcés. Voilà, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui sur Radio Présence. On se retrouve dans quelques minutes.
Et la suite de cet entretien, effectivement, Anne-Rose, c'est juste après le journal régional qui est présenté par Mathis Saint-Onac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et à tous. Le sénateur du Lot, Jean-Marc Vessouze-Fort, a interpellé hier le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Il alerte sur des financements toujours bloqués pour les écoles du département. Ces aides promises dans le cadre du programme Notre École, faisons-la ensemble tardent effectivement à arriver. Le ministre a assuré avoir entendu la demande et promet d'apporter une réponse rapide. À Toulouse, la circulation des trains est interrompue entre les gares de Toulouse-Matabiau et Montauban-Villebourbon sur la ligne principale du nord de Toulouse, en cause des travaux sur la future ligne à grande vitesse qui reliera la Ville Rose à Bordeaux. Le premier week-end de perturbation est annoncé du samedi 8 novembre 10h30 au mardi 11 novembre 11h. Le second sera du samedi 22 novembre 13h30 au dimanche 23 novembre 13h15. Des bus de substitution seront mis en place. À Millau, dans l'Aveyron, les tanneries Pêche d'eau sont placées en liquidation judiciaire. Fondée en 1900, l'entreprise centenaire emploie actuellement 33 personnes. La décision du tribunal est tombée début novembre. En difficulté financière depuis plusieurs mois, la société ne peut plus poursuivre son activité. 500 auteurs attendus, c'est la promesse de la Foire du Livre de Brive. Pour sa 43e édition qui se déroulera du 7 au 9 novembre sous la présidence de Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt, l'organisation prévoit une centaine de rencontres littéraires. Des personnalités du sport, du cinéma, de la télévision ou encore de la chanson seront également sur place. À Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, le département organise une grande opération de repeuplement des cours d'eau. Plus de 150 kilos de poissons, notamment des brochets, ont été relâchés pour renforcer la biodiversité et soutenir la pêche locale. L'action menée cette semaine avec la Fédération de pêche vise, selon eux, à préserver les rivières et leurs écosystèmes. On continue avec les animaux. 3500 poules pondeuses, initialement destinées à l'abattoir, sont mises à l'adoption à Villeneuve-Tolosane, près de Toulouse. L'événement, organisé samedi 8 novembre par l'association Champs Libre aux Poules, invite les particuliers à s'inscrire dès maintenant. Un don de 4 euros par animal vous sera demandé.
Merci Mathis Saint-Onac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info dans moins d'une demi-heure à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Mathis, vous parliez il y a un instant des cours d'eau. On va en reparler dans quelques minutes. On va plus précisément s'intéresser aux gaves. Vous savez, ce sont ces cours d'eau torrentiels. On va en parler avec René Cusac qui a écrit le livre « L'Adour ». Et ses gaves. C'est l'auteur qu'a sélectionné Anne Lasserre cette semaine dans le regard des écrivains sur les Pyrénées aux alentours de 12h50. On retrouvera Anne Lasserre et Philippe Subercase. Pour le moment, la suite de Présence Midi, c'est toujours avec Anne-Rose Jankovic. On s'intéresse depuis midi aux biomatériaux.
Présence à Toulouse, 97.9.
Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Evon, ingénieur de recherche pour le laboratoire de chimie agro-industrielle à la Halle Agromat à Tarbes. Alors Philippe Evon, vous nous avez expliqué déjà pas mal de choses sur votre métier, ce que sont ces matériaux biosourcés. Vous avez évoqué en première partie la réglementation. Je voudrais savoir si vraiment c'est toutes ces réglementations qui sont données. Par exemple, on parlait des constructions, des bâtiments. Est-ce que toutes les nouvelles normes qui arrivent, on a l'impression qu'il y a des nouvelles normes sans cesse. Est-ce que vraiment ça vous aide, ça vous booste dans votre métier, ou est-ce que ce sont des contraintes ?
Alors, ce sont des contraintes pour les fabricants de matériaux, puisque ça les oblige à changer de paradigme, en quelque sorte. Donc, vous avez aujourd'hui des gens qui doivent recomposer les ingrédients des matériaux qu'ils fabriquent pour justement s'adapter à ces nouvelles normes. Et nous, bah, écoutez, quelque part, on en bénéficie.
Mais il faut quand même que vous suiviez tout le temps et que vous adaptiez sans arrêt à ces normes qui ne cessent de changer, d'évoluer.
Oui, alors bah, de toute manière, on a déjà un premier intérêt, un premier gros avantage, hein, c'est que les matières qu'on utilise en guise de matières premières, elles sont issues de cultures pérennes qui se produisent tous les ans. On a, vous voyez, par exemple, beaucoup travaillé notamment sur les coproduits des cultures du tournesol et du maïs, qui sont très largement présentes dans le sud-ouest de la France. Et donc, chaque année, évidemment, l'agriculteur qui produit du tournesol, au-delà de produire de la graine, il va produire des tiges qui contiennent des fibres qui, pour nous, vont être vraiment d'intérêt dans la fabrication des matériaux.
Donc, ce qui était des déchets pour le producteur devient finalement aujourd'hui un outil qui peut servir à toute une autre voie que l'agriculture.
Oui, alors les cannes de tournesol, pour ne citer que cet exemple-là, mais on pourrait parler de la même chose pour les cannes de maïs, ne sont pas totalement des déchets quand même pour l'agriculteur, puisqu'en fait elles vont permettre, en se décomposant naturellement dans le sol, d'apporter de la matière organique au sol et donc de l'enrichir.
En tous les cas, vous proposez d'en faire un autre usage.
Donc nous, on propose d'en faire un autre usage, à condition évidemment de ne pas retirer de la même parcelle tous les ans la totalité des cannes qui pourraient être produites par ces deux cultures. Mais on va surtout justement permettre aux agriculteurs d'accéder à une source de revenus supplémentaires.
Alors, par exemple, là, vous parlez du Sud-Ouest, donc les agriculteurs avec lesquels vous travaillez, comment vous les choisissez? C'est eux qui manifestent leur souhait de travailler avec vous? Comment vous les cherchez?
Oui, alors souvent, nous, on travaille beaucoup avec les coopératives agricoles.
Oui.
On a historiquement, et ce depuis plusieurs années maintenant, beaucoup travaillé avec la coopérative Vivadour dans le département du Gers, notamment sur cette fameuse canne de tournesol que j'évoquais juste avant. La canne de tournesol, tout particulièrement, a un assez gros intérêt puisqu'elle va apporter des fibres dans sa partie périphérique qu'on va utiliser pour fabriquer des matériaux. Et donc les fibres vont contribuer à renforcer mécaniquement les matériaux qu'on va fabriquer.
C'est quoi comme matériaux, par exemple?
Donc ça va être, par exemple, vous voyez, des panneaux de fibres qui vont se substituer, par exemple, aux panneaux de contreplaqué ou aux panneaux d'aggloméré qu'on utilise dans les constructions ou en ameublement. Et on va aussi beaucoup utiliser la moelle de ces tiges, qui est assez intéressante puisque naturellement il s'agit d'une matière très poreuse, faite d'une structure alvéolaire qui, lorsqu'on l'observe en microscopie électronique, rappelle par exemple le polystyrène expansé.
Ah oui.
Et on a eu beaucoup de travaux ces dernières années avec les collègues du LMDC, donc le laboratoire de génie civil de l'INSA de Toulouse. On a eu beaucoup de travaux sur le développement de matériaux d'isolation pour les bâtiments à partir de cette moelle de tournesol. Et dans le cadre des panneaux, pour revenir aux panneaux et à la question sur les aspects réglementaires qui m'étaient posés juste avant, nous, tout notre développement méthodologique autour de ces panneaux de fibres végétales, c'est justement de remplacer les liants synthétiques qui sont aujourd'hui utilisés dans les panneaux de bois conventionnels par des liants naturels. Et ça permet de minimiser les émissions de composés organiques volatiles par ces matériaux pendant leurs usages et de rendre les aires intérieures des maisons et des bureaux beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais aussi et surtout de la santé humaine. Et ça, c'est un cadre réglementaire qui nous aide beaucoup également. On pense souvent à la fabrication du matériau et à ses propriétés, et on occulte trop souvent, de mon point de vue, le caractère de l'innocuité du matériau qu'on développe. Et incontestablement, nos matériaux sont plus respectueux de la santé humaine.
Oui, c'est vrai, parce que dans les esprits, en fait, ça doit respecter l'environnement, mais c'est vrai qu'on occulte assez facilement la dimension de la santé, alors que...
Oui, et donc là, vous voyez, par exemple, dans ce cadre réglementaire, tous les panneaux fabriqués à partir de colle de synthèse contenant du formaldéhyde sont des matériaux qui vont être amenés à devoir évoluer dans les années qui viennent. Le formaldéhyde, donc, c'est un produit qui est naturellement émis par les panneaux de bois collé qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, mais qui néanmoins a été classé cancérigène depuis quelques années. Donc aujourd'hui, les panotiers, donc les industriels qui fabriquent ce type de panneaux, ont déjà l'obligation de fabriquer des panneaux qui émettent moins de formaldéhyde. Et à l'horizon 2035, normalement, l'utilisation de résine à base de formaldéhyde sera tout bonnement interdite. Donc les liants naturels qu'on développe peuvent être une alternative pour le remplacement des colles à base de formaldéhyde à l'horizon 2035.
Alors ça peut être une alternative, on entend que ça devrait l'être pour notre bien, pour le bien de l'environnement, mais tout cela en fait ne sont pas des choses obligatoires dans un projet de rénovation ou de construction. Alors il y a les normes, hein, on en a parlé, mais en fait les normes ne contraignent pas au point d'obliger à utiliser uniquement des matériaux biosourcés aujourd'hui.
Alors, pas toutes, mais pour le cas spécifique des panneaux, vous avez déjà
diminution. Enfin, le champ est très large, en fait.
Alors, le champ est très large, hein, mais dans le domaine de la construction, vous avez déjà maintenant des contraintes réglementaires qui oblige à limiter les émissions de composés organiques volatiles. Et vous avez quelques composés organiques volatiles qui seront tout bonnement interdits des matériaux à l'horizon 2035 pour le formaldéhyde spécifiquement.
Est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt ? Est-ce qu'on avait les compétences d'ingénierie comme comme vos compétences ? Est-ce qu'on en avait suffisamment pour faire ça plus tôt, pour prendre conscience et changer les choses avant ?
Moi, je pense que même si on aurait pu le faire plus tôt, ça n'est jamais trop tard. Ce qui est compliqué aussi, c'est pour les industriels d'adapter leur outil de fabrication à ces nouveaux produits qu'on va leur demander d'utiliser à terme en remplacement de produits issus du pétrole qui jouaient très bien leur rôle et toutes leurs installations ont été dimensionnées et pensées en fonction de la réalité de la fabrication des matériaux dans les années 80.
C'est vrai que c'était efficace, c'était pas si cher et on ne voyait pas que ça pouvait être nocif.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que la problématique des émissions de COV, c'est une problématique qui est assez nouvelle. Ça date d'il y a, on va dire, à peu près une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, aujourd'hui, on se préoccupe effectivement beaucoup plus de l'environnement dans lequel on vit que ça ne pouvait être le cas au début des années 2000. Vous avez des cas spécifiques, notamment les écoles, les collèges, les lycées, où cette préoccupation de matériaux qui émettent moins de composés toxiques est devenue maintenant quelque chose de très prégnant. Donc les industriels vont devoir s'adapter. Néanmoins, très souvent, des outils de production sont des outils très coûteux. Oui. Donc il faut aussi leur laisser le temps de faire cette mutation et ne pas chercher à leur imposer plus vite qu'ils ne le pourront des changements dans leur modèle industriel qu'ils ne seraient pas en mesure de faire à court terme.
Oui, cette question du coût, je voulais terminer par ça justement parce qu'effectivement si c'est cher pour les industriels le coût se répercute sur les usagers in fine, construire sa maison ça peut coûter très très cher si on ne veut et c'est légitime de construire qu'avec des matériaux qui soient plus sains.
Oui, d'une manière générale c'est un petit peu on va dire la limite des matériaux biosourcés qu'on développe à performance d'usage égale. On a affaire à des matériaux qui sont plutôt plus élevés en termes de coût que des matériaux conventionnels issus du pétrole. Mais ça, c'est lié à des problématiques d'échelle des unités de production.
Et ça, c'est le cas partout ? Enfin, je veux dire, en France, en Europe, ailleurs dans le monde
C'est globalement le cas partout, parce qu'en réalité, ce qui fait que les plastiques d'origine fossile ne sont pas chers, ce sont les dimensions des unités qui les produisent. Néanmoins, plus les capacités de production des usines qui produisent des bioplastiques augmentent, et plus le prix de revient de ces bioplastiques diminue. Alors je vais vous citer un exemple qui est l'exemple du PLA, l'acide polylactique, qui est un polymère issu de l'amidon, donc issu de ressources renouvelables. Quand moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, à la fin de ma thèse, au milieu des années 2000, le prix du PLA au kilo était aux alentours de 5 euros. Et aujourd'hui, en un petit peu moins de 20 ans, le prix moyen du PLA a diminué de moitié. On est aujourd'hui à peu près à 2,50 euros. Néanmoins, on est toujours plus cher qu'un polyéthylène ou qu'un polypropylène issu du pétrole, qui eux sont plutôt à des prix aux alentours d'1,50€ le kilo. Donc les choses évoluent.
Marge, oui.
Et plus la demande augmente, plus les capacités des unités de production augmentent et plus les prix de revient diminuent. Il faudra néanmoins attendre encore quelques années avant que le prix de ces bioplastiques soit compétitif avec celui de plastique fossile.
En tous les cas, c'est passionnant. On n'a pas fini de faire le tour de la question. Est-ce que d'ailleurs ça intéresse les usagers ? Allez, on termine là-dessus. Ça intéresse les usagers ou vous aimeriez que ça les intéresse plus, les usagers ?
Alors les usagers, globalement, sont très demandeurs de ces solutions.
Sans forcément savoir tout ce qu'il y a derrière.
Sans forcément en fait savoir tout ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, très souvent, les usagers ne comprennent pas nécessairement tous que les matériaux qu'on développe soient plus chers ou qu'ils résistent moins à un contact prolongé avec de l'eau. Néanmoins, c'est aussi l'avantage des matériaux qu'on développe. En fin de vie, on va pouvoir, on va dire très majoritairement, les laisser se biodégrader naturellement dans des composts industriels ou même dans notre compost à la maison. Mais on peut quand même dire que les usagers sont de plus en plus demandeurs de solutions davantage vertueuses pour les matériaux qu'ils utilisent.
Oui, il y a une vraie conversion.
Il y a une vraie prise de conscience du fait que le réchauffement climatique est un vrai souci. Et la surexploitation des ressources fossiles n'y est pas pour rien. Donc nous, on est un petit maillon dans la chaîne permettant de faire de notre planète une planète où il pourra faire bon vivre encore longtemps.
Merci beaucoup Philippe Evon pour toutes ces réponses à ce vaste sujet, donc ces agro-matériaux, ces matériaux biosourcés. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses et cette interview est à retrouver en replay sur radioprésence.com. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci aussi à Nourse Jankovic donc, qui a réalisé cette interview. Allez, la suite de Présence Midi dans moins de 20 minutes, le journal régional d'actu national et international. Dans un instant, on va s'intéresser à l'Adour. L'Adour et ses gaves, c'est le titre de René Cusab, de dernier ouvrage.
Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Anne Lasserre, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors, la semaine dernière, vous me disiez qu'on avait peu parlé des cours d'eau et surtout des gaves, hein, bien sûr, qui sont dans notre région. Je pense souvent quand même aux chansons d'Edmond Duplan qui a mis à l'honneur les gaves de notre région. Il a écrit sur l'Adour, il a écrit sur d'autres, bien sûr, d'autres cours d'eau. Et quand on évoque les Pyrénées, bien sûr, on pense surtout au sommet, au mont qui se dresse tout au long de cette chaîne, mais on oublie souvent les gaves qui les sillonnent.
Et oui, et donc aujourd'hui la chronique est consacrée à l'Adour et à ses gaves, et plus précisément aux gaves béarnais, grâce à un ouvrage publié par René Cusac en 1937.
On peut peut-être préciser aux auditeurs que le terme gave, le gave de Pau, le gave de Loron, est un terme régional désignant un cours d'eau torrentiel.
Oui, et je précise également de mon côté que René Cusac écrit cet ouvrage « L'Adour et ses gaves » pour mieux faire connaître, Philippe, un coin oublié de la France.
Et à ce propos, dans sa préface, il a cité l'abbé Jean-Félix P. de Gers, j'espère que je prononce bien son nom, né en 1809 à Ponton-sur-Adour. Il le cite car l'abbé P. de Gers fut également historien et poète gascon, et quand il est à Paris, il songe à son pays natal et bien sûr à l'Adour.
Il a notamment écrit ce poème traduit du gascon, Seine fleurie et vagabonde, Seine qui baigne de ton nom de Paris, la merveille et l'honneur du monde, combien grande ta beauté, mais tu n'es point pour moi l'Adour.
Oh, c'est joli, que c'est beau. Allez Anne, on vous écoute donc.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
René Cusac est né dans les Landes en 1901. Il a été professeur au lycée de Bayonne. En tant qu'historien régionaliste, il a publié plusieurs ouvrages, dont l'un s'intitule « L'Adour et ses gaves ». Comme le titre l'indique, il s'intéresse à ce fleuve qui, des Pyrénées à l'océan, parcourt quelques 300 kilomètres, traverse des paysages bien différents, sans trop s'éloigner de ces montagnes qui lui donnent le jour. Le chapitre 3 de cet ouvrage est consacré aux gaves béarnais. À cheval sur la montagne et sur la plaine, comme les autres états pyrénéens, le Béarn est avant tout le clair pays des gaves. Leurs vallées avenantes attirèrent les hommes et sur leurs rives fleuries, des contrées heureuses chantent la joie et la douceur de la vie. Nulle part ne se révèle plus étroite l'antique union des villes, des villages et des eaux. Dans l'océan des pics pyrénéens reparus, deux grandes coupures mettent un peu d'ordre et de clarté. Cellules bien isolées à l'intérieur de la montagne, l'Aspe et l'Osso étaient jadis de libres républiques pastorales. À l'écart, dans la zone de transition et le seul pays crétacé, le Barétous est lui aussi une antique association de paroisses. Ainsi, de l'est à l'ouest, trois vallées, ayant chacune leur rivière pour berceau, forment le Béarn des montagnes. Au sud, le pic du Midi d'Osso culmine à 2885 mètres. Survivant d'une très vieille éruption, ces escarpements vertigineux tranchent sur le modelé plus doux des montagnes prochaines. Encore, les Pyrénées doivent-ils céder des pieds et des mains dans la périlleuse montée des couloirs presque verticaux, munis de crampons scellés à la montagne. Alentour de ce roi des monts surgissent des massifs compacts de plus de 2000 mètres, déchiquetés par une érosion intense que favorisent les grandes pluies d'ouest, déferlant du sud en vagues de pierre, les nappes de charriage empilèrent ici même les étages géologiques les plus divers. comme en l'Avedan, d'innombrables lacs reflètent l'ombre des grands pics, perdus dans les derniers buissons avoisinant le silence éternel du roc. Le plus grand, celui d'Artoust, est un lac de cirque. Mais que d'autres encore, entourés du rougeoiement des poudingues ou embellissant de leurs nappes bleues toute la poésie de la haute montagne. Au-dessous d'eux, les cascades rebondissent au flanc des canyons des Rius, car rien n'est plus encaissé que ces étroites entailles des monts où coulent les eaux. Les sommets dénudés aux flaques neigeuses s'abaissent cependant vers les pelouses gazonnées, aux bleus gentianes et aux digitales pourprées. Plus bas, les forêts de sapins et de hêtres, où mûrissent framboises et myrtilles, jettent à leur tour leur ample et vert manteau sur tout ce complexe superbement boisé. C'est dans ce monde imposant des cimes que, vers 1750 mètres, se forme le gave d'Ossau. Ces deux branches de Biousse et de Broussé recueillent dans une gorge sauvage les eaux de l'ouest et de l'est du pic du Midi qu'elles encadrent de leur fourche. Au confluent, dans un minuscule bassin granitique frais et humide, l'hôpital de Gabas gardait le sentier pénible montant vers les Sierras aragonaises. De nos jours, les modestes saloirs du petit village reçoivent par milliers les fromages réputés de la montagne. Dès lors, jusqu'à La Reims, 500 mètres environ, dans la verdure des grandes forêts et les gerbes d'eau des chutes, coupées de verrous, courant dans un mince sillon où un pan de ciel a peine à se montrer, le gave se précipite d'une pente formidable dans l'encaissement des calcaires et des sapins. Tandis que planent les aigles, maîtres des cieux, les coqs de bruyère se perchent aux branches des arbres. Plus haut encore, le chasseur à l'affût attend la horde d'isards que pourchassent les rabatteurs. Légère et gracieuse, humant le vent, la fine bête bondit au-dessus des abîmes. Mais arrive le brouillard de l'automne ou du printemps, le troupeau inquiet et immobile se tapit sous la roche. Lui aussi vit dans ses solitudes. Maître Martin, qui dansait jadis jusqu'en chalosse au son des tambourins des batteleurs. Et ce n'est pas impunément que l'ours, sculpté sur tant de chapiteaux d'église, figure avec la vache dans les armes de la vallée. À droite, sous un fouillis de rocs et d'arbustes, le soussouéou furieux descend du lac d'Artoust dans la beauté des buis. La station thermale des eaux chaudes s'allonge avec peine dans l'espace resserré, séjour préféré de la cour de Navarre au XVIe siècle. En aval, survient le formidable verrou glaciaire du Hourat, entaillé depuis d'Etigny par la plus impressionnante des routes. Sciant littéralement la muraille de pierre, le gave semble disparaître dans le trou sans fond du défilé sinistre. Toujours à droite, accourt le Valentin. Sur ses bords, les aubonnes accrochent leur promenade au flanc du Gourzy, dont la haie très splendide précède les pelouses rougies des rhododendrons en fleurs. Devenus, grâce à la féerie de leur champ de neige, un centre réputé de sport d'hiver, les aubonnes sont l'un des splendides fleurons de la couronne des villes d'eau qui font l'orgueil des Pyrénées. Le livre de René Cusac, La Dour et ses gaves, est le deuxième ouvrage à paraître dans la collection Les belles rivières de France. Le livre contient de nombreuses illustrations, plus précisément 167 héliogravures. Le livre a été publié à Aurillac par les éditions USHA en 1937.
René Cusac nous rappelle dans ce texte que les Pyrénées sont célèbres non seulement par leur sommet, mais aussi par leur gave. Et il ajoute que nous sommes dans les années 1930, certains lieux comme les Aubonnes sont devenus réputés grâce au sport d'hiver.
En effet, Philippe, quelques années auparavant, en février 1908, a lieu aux Sorbonne le premier concours international de ski. Alors, il y a bien sûr des Français, mais aussi des Norvégiens, des Italiens, des Suisses. On organise des concours de saut à ski, des courses de luge, de traîneaux et de bobsleigh.
On organise tout cela avec les moyens du bord. ça devait être rigolo.
Oui.
Les Sorbonne ne possèdent aucun des équipements actuels. Les courses de luge, de traîneau ont lieu le long de la route et même dans la rue qui traverse les Sorbonne. Les bobs empruntent aussi les rues verglacées, bien sûr, faute de pistes hein, et d'infrastructures qu'on peut connaître aujourd'hui.
Et malgré tout, ce premier concours connaît un tel succès que l'année suivante, en février 1909, a lieu le deuxième concours international des Pyrénées. Les skieurs palois invitent de nouveau les skieurs de tous les pays à venir se mesurer à eux sur les pentes de la vallée d'Ossau.
Pour l'occasion, on a construit des traîneaux qui sont tirés par des mulets et des chevaux afin de transporter les nombreux spectateurs. Parmi eux, il y a un spectateur particulier. Le roi d'Espagne, Alphonse XIII, lui aussi montrera dans un de ses traîneaux pour aller admirer et présider le clou du spectacle, le concours de saut remporté par un Norvégien.
Oui, faut-il l'avouer, Philippe, les Français ne brillent pas par leurs performances, mais on en est au début du ski dans les Pyrénées. Hein.
Voilà, et c'est vrai que vous nous aviez raconté dans cette chronique la perception des Pyrénées à travers le temps, et bien que les Pyrénées, il y a quelques années, on n'y montait pas, il faisait peur, on trouvait ça des fois même effrayant et pas beau.
Oui.
Et puis petit à petit, bien, on les a gravis, et puis aujourd'hui, on les emprunte l'hiver abondamment.
Voilà.
Et l'été aussi, bien sûr, pour de belles balades.
Et si ma mémoire ne me trompe pas, je crois que la première paire de skis, elle arrive dans les Pyrénées en novembre 1903.
1903, oui. C'est pas si vieux que ça. Hein, voilà.
Ils n'avaient pas eu trop le temps de s'entraîner.
Non. Exactement. Alors, la semaine prochaine, nous irons dans les environs de Lourdes grâce à un ouvrage écrit par Lucien Latapie et qui fut d'ailleurs maire de Lourdes de 1929 à 1932. À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. Start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. I'm gonna make it.
make a brand new start of it. In old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.6.
Radio Vatican,
le journal,
le journal.
Mahmoud Abbas, reçu par Léon XIV ce matin au Vatican. Hier, le président palestinien s'est recueilli sur la tombe du pape François.